C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, cher commissaire, on va avoir comme premier sujet pour les débats ce matin ce concept de l'économie de nuit, c'est-à-dire qu'il y a un projet pilote, là, puis on va consulter les gens, mais essentiellement, s'inspirant des villes comme Berlin, Amsterdam, c'est de permettre un 24 heures de bars, de restos ouverts, puis des spectacles, bref, une vie économique nocturne. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée, Nathalie?
Ben, c'est une heureuse nouvelle pour les insomniaques, mais voyant jaune pour les citoyens du centre-ville qui aspirent, on le sait, une certaine quiétude la nuit venue. Moi, j'ai envie de vous dire, toutes les villes et grandes métropoles du monde, tu as référé à certaines grandes villes, Paul, qui se respectent, ont développé ce concept d'économie de nuit. C'est vraiment extraordinaire parce que ça permet à la ville, bon oui, de générer des retombées économiques, mais ça permet à la ville aussi de vivre la nuit. Et sur le plan touristique, ça attire énormément. Je lisais qu'en 2019, 22 % des touristes ont choisi Montréal pour sa vie nocturne. Quelle est la ville de prédilection, petit quiz ce matin, sur la planète? Quelle est la ville de prédilection dans le monde? Celle qui est réputée pour ne jamais dormir la nuit? Je vous laisse...
New York.
New York, effectivement. Mmh. Je doute que Montréal devienne New York, mais la décision de la ville de voir comment on peut structurer une économie de nuit me semble très à propos. Par contre, elle devra le faire de façon progressive. Et je salue la démarche de la ville parce que l'administration de la mairesse Plante dans sa plateforme avait annoncé cette volonté. Ils ont tenu un sommet sur la vie nocturne en 2021. Ils vont adopter une politique en 2023. D'ici là, d'autres consultations. Alors, les choses se font correctement et c'est tant mieux.
Ça fait des années que Mathieu Grondin pousse sur ce dossier-là. Là, je venais d'arriver maire que je l'ai rencontré, puis la ville, l'économie de nuit, puis la ville de nuit. Puis,
c'est le gars de Montréal 24 heures.
Ouais, c'est ça, lui, il n'a jamais lâché, c'est triple là-dessus. Là, puis,
il travaille jour et nuit.
Oh, il travaille jour et nuit. Puis il y a beaucoup de tenanciers de bar, évidemment, qui ont envie, mais pas tous. Et puis, on cite toujours les deux mêmes villes, Amsterdam puis Berlin. Fait que moi, je suis allé, j'ai allé checker ça. Puis Berlin, là...
T'es allé la nuit passée.
Non, j'étais allé la nuit, hein. J'étais allé la nuit, pas allé le matin. Puis Berlin, oui, c'est vrai qu'il y a un grand quartier dans lequel les bars sont ouverts 24 heures sur 24, mais c'est pas un quartier urbain résidentiel. Tous les quartiers dans le cœur de la ville, les terrasses ferment à minuit. D'ailleurs, c'est des très grandes terrasses immenses. Ils ont des trottoirs de 11 mètres de large là-bas. Et des terrasses avec 200 tables, 200 chaises. Là. Mais ça ferme à minuit. Dans ce quartier-là, qui est assez industriel, il y a une partie sur le bord de l'eau, oui, il y a des bars ouverts jusqu'à 24 heures, mais pas à côté des maisons. Là. C'est Plateau Mont-Royal, dans le centre-sud, surtout Plateau Mont-Royal, mais là où il y a beaucoup de bars, c'est directement dans la trame urbaine. Il y a du monde qui habite en haut et du monde qui habite en bas. Tu sais, moi, cette affaire-là, ça me fait penser à l'étude qu'a commandé le ministre Dufour sur les caribous. Alors, la situation sur les caribous est connue. Puis la situation sur les bars, elle est connue aussi. Là. Il n'y a pas besoin de faire une millième étude. Il doit y avoir, dans une année, des centaines de plaintes, des milliers de plaintes, mais c'est des dizaines de personnes qui se présentent au conseil d'arrondissement pour dire on n'en peut plus. On n'en peut plus.
Du bruit.
C'est pas le bar, c'est pas la musique du bar, c'est quand les gens sortent. Les gens sortent, puis ils sont juste joyeux. Mario, les clés, on se revoit, hey, mardi, on se voit mardi. Ben oui, mais ça fait quatre fois que tu y dis, là, tu peux t'arrêter, puis les éclats de rire. Puis, mais si t'as ça à 3 heures du matin, tu dis, OK, c'est correct, mais à 4 heures, ça va arrêter. Non, mais si là, tu vas l'avoir à 3 heures, à 4 heures, à 5 heures, à 6 heures, parce qu'ils partiront pas tous à 3 heures. Fait que, à 6 heures du matin, quand le dernier va dire, t'as-tu mardi des clés? Ben là, tu vas être tanné en simonac d'habiter. Puis là, tu vas dire, mais moi, je vais aller vivre ailleurs.
Le plus grand défi, selon moi, c'est celui-là. Puis en même temps, en fait, un des grands défis, c'est celui-là. L'adhésion également des citoyens. Tu sais, je pense aux gens qui vivent dans Griffintown, dans le Vieux-Montréal. L'autre chose, c'est la main-d'œuvre. Il y a des restaurants, par exemple, à Montréal. Tu leur offres la possibilité d'ouvrir, par exemple, la nuit, 24 heures sur 24. Ils vont dire, ben, je suis pas capable d'ouvrir plus que 3 jours semaine. Je vois pas comment je pourrais ajouter des chiffres de nuit à mon resto.
Oui, c'est ça, oui.
Tu parles des bars, Luc, mais c'est ça. C'est que lorsqu'on parle d'économie de nuit, il n'y a pas que les bars. Et ça va dépendre de l'intensité avec laquelle la ville va souhaiter développer ce concept. Il y en a qui, par exemple, vont miser sur les musées, par exemple. 3 fins de semaine dans l'été, les musées vont être ouverts la nuit. Il y en a d'autres, ça va être les bars, les restos.
C'est le fun, c'est correct.
Quels sont les quartiers, effectivement, tu vois? Alors, moi, je pense que c'est vers ce genre de formule hybride vers lesquelles on devrait tendre, plutôt que de dire, Parce que le gars, Mathieu Grondin, là, lui, il veut une ville, Montréal, 24 heures sur 24. Excusez-moi, là, mais ce n'est pas possible. Puis d'ailleurs, quel serait l'intérêt d'une vie nocturne à Montréal en novembre? Il y a moins de touristes. Je suis pas certaine que ça aurait le même.
C'est à 18 heures, il n'y a plus personne.
Oui, mais exactement. C'est ça.
Mais tu sais, cette histoire-là de par exemple, un bal en blanc ou, tu sais, black and blue, whatever. Oui. Mais ça, c'est cool, c'est super.
Les
c'est un événement.
Ponctuels.
En plus, c'est dans des centres, des endroits bien précis. La question, c'est les. Puis derrière ça, c'est parce que, oui, on fait valoir ces points-là, mais derrière ça, c'est la pression de certains établissements. Il faut dire que les policiers sont d'accord avec l'idée de. Parce que eux, ça leur enlève de la marge de travail, de la charge de travail. Parce qu'à 3 heures du matin sur Saint-Laurent, faut que tu gères des milliers de personnes qui sortent en même temps des bars. C'est là souvent qu'il y a des rixes, etc. En disant, ben, si c'était ouvert jusqu'à 6 heures du matin, ils sortiraient tranquillement, puis on aurait une charge de travail beaucoup moins grande. Mais il suffit de faire un petit peu de travail d'archivage, là, de déclaration au conseil d'arrondissement de Ville-Marie ou du plateau Mont-Royal pour qu'on ait un exemple de des problèmes que ça peut entraîner. Puis moi, tu sais, j'en ai parlé, des fois, j'hésite à en reparler parce que j'en ai souvent parlé, mais des exemples. Là. Une famille qui sort d'un restaurant qui est ouvert tard. Puis moi, je suis pour les restaurants qui ouvrent tard. Là. Je trouve qu'ils ferment très tôt, les restaurants à Montréal. Ils sortent de là, eux autres, puis là, il y a une boîte postale, tu sais, une ancienne boîte à mal, tu sais. Puis là, c'est peut-être à faire du tam-tam là-dessus. Puis ils sont crampés, puis ils ont du fun, puis ils font du tam-tam, puis là, ça part, puis c'est un jam. Mais oui, mais il est 2h du matin. Puis en haut, il y a du monde, puis là, les gens les interpellent, puis là, la chicane pogne, ça commence à se crier dessus. La ville, tu sais, c'est un problème, c'est un ensemble où il y a un cumul de petits problèmes, tu sais. Saleté, bruit, ambulance, klaxon, des bruits, tu peux pas t'en sortir. Des fois, c'est ton voisin d'en haut qui est pas du monde. D'autres, c'est un gars en bas, lui, il fait de l'ébénisterie dans sa cour, tu sais. C'est arrivé, ça. Je donne des exemples que j'ai vécu, là. Lui, tous les jours de sa vie, il fait du planage de planche, puis écoute, ça, tu peux pas l'empêcher. Fait que s'il y a des bruits dont on peut se passer, ben il faut tenter de s'en passer.
Mais ça va, c'est une question de compromis rendu là. Je ne crois pas que l'administration qui est en place va fermer la porte complètement à cette possibilité de développer davantage son économie. Puis les chiffres font rêver là. Tu vois, il y a un chiffre de plus de 2 milliards qui a été évoqué en dépenses potentielles si Montréal faisait vivre davantage son économie. Mais en même temps, est-ce que c'est le genre de ville qu'on veut pour le futur au moment où on lutte contre les changements climatiques, où on veut que Montréal soit une ville où on veut attirer des résidents, où on veut vendre la quiétude de la ville? Alors, comment t'assures un compromis? C'est pour ça que ça va prendre une politique. On va devoir encadrer ce qu'on veut vraiment développer. Il y a certaines villes qui se sont dotées de chartes sur l'économie de nuit. C'est un dossier touché, là. C'est un dossier.
Est-ce que tu penses que c'est possible de trouver un endroit à Montréal pour faire ça, puis qu'il soit pas dans un secteur résidentiel?
C'est le difficile. Quartier des spectacles,
c'est difficile,
par exemple.
Peut-être, le quartier des spectacles, quoi qu'ils viennent de construire juste à côté, là. Mais c'est difficile de trouver ça. Tu sais, regarde avec les spectacles. Il y a eu toute une discussion sur où est-ce qu'on met les festivals, et il y a eu donc dans ce cadre-là, la décision de développer la grande scène sur l'île Sainte-Hélène. On s'était dit, ben si sur l'île Sainte-Hélène, ça va être loin de tout. Non, parce que avec le nombre de décibels produits dans les spectacles, ça a un impact à la fois sur la Rive-Sud puis sur Saint-Lambert. Alors, on tolère ça parce qu'on se dit, ben c'est une période donnée, c'est des spectacles, il y en a tant par année. Mais c'est très, très dur de trouver une place. Dans les villes qu'on cite avec une vie de nuit, là, il y a des villes où c'est la catastrophe. Là, t'sais. Des dépanneurs ouverts toute la nuit qui vendent de l'alcool à des jeunes qui rentrent jamais dans des bars, des établissements, ils se tiennent sur le trottoir. Paris, des gros problèmes, Grenoble, etc. Il suffit pas de dire « Ah, en Europe, ça marche. Allez-y voir en Europe. »
Pause au retour pour ou contre les codes vestimentaires dans les écoles.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, les codes vestimentaires en période de canicule ont fait jaser pas mal dans un certain nombre d'écoles. Les codes qui s'appliquent, disons-le, principalement aux filles. Alors, on est pour ou contre les codes vestimentaires à l'école, M. Ferrandez?
Moi, je suis moralement conservateur quand il s'agit de l'école, je suis pour. Mais on en parle parce que c'est un sujet rigolo, hein. Pas parce que c'est un enjeu. Il y a deux écoles, finalement, où il y en a une en Ontario, une au Québec. Puis dans l'école d'Ontario, ça a fait une petite crise parce que il y a une intervenante qui a demandé aux filles de se pencher pour voir si on voyait leur trop de jambes. Puis la directrice s'est excusée, puis elle a dit, ben on fera plus ça, c'était pas une bonne idée. À Père Marquette, ils ont regardé, je pense que c'était la paume de la main au-dessus du genou, tu sais. Ils ont checké ça, ils ont bon, t'sais, regarde, c'est rigolo, c'est des affaires Internet. Mais ça nous permet de nous poser la question, tu sais. Puis moi, J'avoue que je suis conservateur là-dessus parce que je considère que si tu veux te promener avec un... Je parle de l'école, moi. Si tu veux te promener avec un hoodie puis des pantalons qui t'arrivent en bas des fesses, les gars, là, des pantalons en bas des fesses, un hoodie puis un masque avec un squelette dessus, là, fais-le au parc. T'envoies un message quand tu te promènes avec ça dans l'école. Si tu es une fille puis que tu te promènes, comme j'en ai vu une sur Saint-Denis, Saint-Denis, il n'y a pas de problème. Mais si t'as une camisole où on voit les side boobs, comme ils disent sur les sites internet, les seins complètement vus de côté, ou alors un pantalon tellement taille basse qu'on voit que tu portes un string ou on voit que tu ne portes rien, ben fais-le au parc. L'école, là, moi je pense que c'est un endroit où tu dois essayer de protéger l'enfance le plus longtemps possible, pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a des enfants dans une école. Secondaire 1, secondaire 2, c'est pas tout le monde qui est pubère. La deuxième chose, c'est que même ceux qui sont pubères, ils sont pas tous pubères à même vitesse. C'est pas tout le monde qui a envie de plonger dans cet univers-là de séduction ou d'agressivité, dans le cas du gars avec les COD pis tout ça. Et puis c'est un lieu où tu dois te concentrer sur la matière. Tu sais, si tu veux montrer que t'es tough, ben apprends ta grammaire pis ton algèbre. Puis l'expression, ton expression, souvent secondaire 4, 5 peut-être, de ta sexualité, de ta masculinité, ben en dehors de l'école.
Mais le problème avec les codes vestimentaires, tu l'as dit, Paul, c'est que ça vise la plupart du temps les filles. Et dans ce sens-là, c'est perçu comme discriminatoire. Moi, j'achète l'idée du code vestimentaire. Par contre, je n'achète pas l'idée des groupes féministes qui disent que le code vestimentaire brime le droit des jeunes filles de s'habiller comme elles le veulent. Je regrette, à l'école, tu peux pas t'habiller comme tu veux, au même titre que lorsqu'on vient au travail, on peut pas s'habiller comme on veut. Alors, le code vestimentaire fait partie d'un code de vie. Tu l'as dit, Luc, à l'école. Cependant, je pense que ce genre d'initiative doit être utilisé avec parcimonie, c'est-à-dire utilisé parce qu'il y a des intensités, des gradations dans le code vestimentaire. Tu peux adopter un code vestimentaire qui est hyper strict, comme tu peux adopter un code vestimentaire qui laisse plus de latitude, plus de souplesse. Mais ce que je déplore effectivement, c'est que chaque fois qu'on parle de ça, puis j'ai hâte un jour qu'on passe à un autre appel. Je disais à Luc avant d'entrer en onde, as-tu remarqué, on parle du code vestimentaire seulement lorsque les beaux jours arrivent, parce que la jupe ou le short est un pouce trop haut par rapport à ce qui est permis. Mais il faut pas oublier que sur cet enjeu, puis moi je trouve ça dommage qu'on vise toujours les jeunes filles. Puis je comprends les jeunes filles qui disent, écoutez là, pourquoi c'est toujours nous? Par exemple là, dans à Ottawa, lorsqu'ils ont vérifié à l'école Père Marquette à Montréal, avec la jupe correspond-elle à ce qui prévaut au code? Ben t'as une file de 40 jeunes filles, puis t'as un gars dans la file. Je disais, attends une minute, clairement, le code est discriminatoire là pour les jeunes filles. Ouais, et savez-vous que la mode actuellement chez les jeunes garçons, c'est de porter les shorts très, très courtes hein, pour montrer les beaux muscles des cuisses de ces garçons. Ça, c'est la mode. Alors, si tu peux pas autoriser, si tu ne permets pas un short court pour les filles, tu ne permets pas un short court pour les garçons. Alors, dans ce sens-là, je me dis... oui, c'est important le code vestimentaire, mais en même temps, arrêtons de mettre toujours le fardeau sur les jeunes filles. Ça devient embêtant.
Oui, Nathalie, mais qu'est-ce que tu veux? Les personnes regardent les gars. Je veux dire.
Mais comment personne ne regarde les gars?
Ça dérange qui qu'un gars se promène en camisole, tu sais? Bon,
ben oui, mais moi, excuse-moi, ben là-dessus, voilà. Pourquoi jeune garçon aura le droit de se promener en camisole à la polyvalente?
Parce qu'il n'y a pas de
jeune fille. Voilà, tu sexualises exactement le débat. C'est exactement pour ça que les groupes féministes décrivent les codes vestimentaires qui discriminent les jeunes filles.
Ben attends, OK. Moi, un gars en camisole à l'école, je suis pas pour, hein, d'accord? En
partant,
là, pas pour, elle se met un t-shirt.
Mais si, puis même les t-shirts pas de manches, là.
Mais attends.
Non, tu permets pas ça. Un instant.
Moi, ce que je comprends de la situation, parce que je suis un gars, hein, je le mentionne, c'est que l'adolescence, c'est un moment où tu as des doutes. Tu as des doutes sur ta sexualité, tu as des doutes sur ta beauté, sur ton corps. Puis les corps évoluent pas tous à la même vitesse.
Tout à fait.
Puis c'est pas toutes les filles qui sont arrivées à ce niveau-là d'exposition, d'affichage de leur corps. Tu sais. Moi, je pense qu'une fille qui est un gars qui est en contact avec une fille, un gars efféminé, qui a encore l'air d'un enfant, tu sais, qui a 14 ans, ça arrive, c'est très souvent. La puberté arrive beaucoup plus tard, ou est arrivée, mais elle ne s'est pas développée, qui est face à une femme qui expose ses seins ou ses fesses, ou une fille qui n'est pas arrivée à ce stade-là, qui a des doutes sur sa sexualité, qui est face à une femme qui expose ses seins, ses fesses, moi, ça lui envoie des questions que je pense que ça ne devrait pas être géré à cet âge-là tout de suite. Ça devrait être fait autrement, ça devrait être fait ailleurs. À l'école, concentre-toi sur l'école.
Mais tu vois, aujourd'hui, les jeunes filles nous disent, c'est mon corps, puis j'ai le droit de le gérer comme je veux. Puis ce que je remarque, c'est que les jeunes filles aujourd'hui sont très à l'aise avec leur corps. Des jeunes filles qu'on voit de 14-15 ans, qui sont très développées, qui arrivent, écoute, avec des décolletés, si on s'entend, c'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de ça à l'école. Mais ce que je remarque, c'est que les jeunes filles assument ce qu'elles sont. Grosses, moins grosses, petits seins, gros seins, moyens seins. Ça, c'est très cool. Par contre, là où je trouve ça triste, c'est justement débattre, parce qu'on a exactement appuyé sur le bon bouton, mon cher Luc, quand tu dis, ben ouais, moi, je n'ai pas le goût de voir les jeunes filles comme ça exposer leurs attributs.
Non. Moi, homme de 59 ans, ça me dérange pas du tout, du tout. Au contraire,
tu sais, je vis le printemps, là. Mais là où je te suis, c'est là ce qui est à la mode chez les jeunes filles, c'est les tops, OK? Là, bon, on voit souvent là, une partie du ventre. Ben, mettez-vous un chemisier par-dessus. C'est ce que le genre de code vestimentaire prévoit.
Ou du moins à l'école. Du moins à l'école.
Oui. Mais par contre, là où je vais livrer une objection toujours, c'est peut-on voir un code vestimentaire
non sexualisé.
Oui, c'est ça. Et non genré.
Ben, il y a une affaire qui n'est pas réglée. C'est cette idée-là, selon que tu l'as exprimé tantôt, là, regarde, les filles s'habillent comme elles veulent, puis les gars ont juste à gérer leurs émotions. Correct. Ça, c'est
100%. Non, mais je dis pas ça comme ça.
Non, mais
là.
Toi, tu le dis pas, mais hier, je l'ai entendu par une chroniqueur. Oui, sans doute que les hommes doivent gérer leurs émotions. Pas sans doute. D'ailleurs, je suis d'accord avec l'idéal féministe là-dessus, parce que, tu sais, on peut pas commencer.
C'est une question d'éducation.
Pas
là.
Juste ça, mais attends, c'est parce que il y a 1000 corps différents de femmes. Tu sais, tous les corps ne correspondent pas, puis d'hommes, mais qui ne correspondent pas à un corps sexualisé tel qu'on le voit à la télévision ou bien sur le tapis rouge de Cannes. Et on peut pas commencer à dire celle qui a des seins envoie un message sexuel, celle qui en a pas en envoie pas. Non, ou celle qui monte ses jambes envoie un message sexuel, celle qui monte pas ses jambes parce qu'elle en est moins fière, elle envoie pas un message sexuel.
On est d'accord là-dessus.
Donc, d'accord, je suis d'accord avec l'idéal féministe.
Mais après,
l'idéal féministe, il reste quand même que moi, j'aime pas quand les féministes se mêlent de dire ce que les hommes doivent penser. Voici ce qui se passe dans la tête d'un homme. Non, là, j'arrête d'écouter. Mm-hmm. C'est pas à vous de dire ce qui se passe dans la tête d'un homme.
Je comprends. Mais en même temps, ce qui me réjouit également, c'est de voir des garçons être solidaires de leurs collègues féminines dans une école. Par exemple, les garçons du Collège Nouvelle Frontière à Gatineau, rappelez-vous, en octobre 2020, qui ont décidé de porter la jupe parce que eux, ils trouvaient effectivement, ils dénonçaient le code vestimentaire genré. Alors,
c'est la lutte idéaliste des secondaires.
Non, mais c'est quoi? On a tous été adolescents un jour, mon cher Luc.
Ça nous prend des luttes.
C'est extraordinaire.
Si on les fait pas là, on fait ça.
Bravo, cette solidarité qui s'exprime entre les jeunes garçons et les jeunes filles au secondaire.
Merci à tous les deux. On s'arrête.
C'est 23.